Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8.
16h30, 17h. Léo Korkos.
Bonjour à toutes et à tous, 16h30 sur Radio Campus Grenoble et vous êtes bien dans Microcité, votre dose d'actualité hebdomadaire. Dans ce sixième numéro, on se penche sur les nouvelles formes de mobilisation. Après Nuit Debout et les Bonnets Rouges, place maintenant aux Gilets Jaunes. Demain, ils lanceront 1500 actions dans toute la France contre la hausse des prix du carburant. Une mobilisation lancée sur les réseaux sociaux et est décrite comme citoyenne. Alors comment s'organisent ces manifestations 2.0 qui rejettent le soutien des politiques et des syndicats ? On en parle dans une dizaine de minutes avec Julien Penaud et ses invités. Puis on fêtera l'anniversaire d'un lieu chargé d'histoire, la Maison de la Culture de Grenoble a 50 ans. Aurélia Valarié est allée à la rencontre de ceux qui l'ont vu grandir. Merci de nous écouter sur le 90.8 ou sur le site campusgrenoble.org, enfin si ça marche. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ou sur Twitter, @microcité. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Microcité numéro 6, c'est maintenant. Et on commence avec le journal, le point sur l'actualité, c'est avec Xavier Ponroy.
Bonjour à tous, au sommaire de ce journal, la manifestation des Gilets jaunes, c'est demain. Plusieurs milliers de rassemblements sont prévus un peu partout en France. Luc Chemla nous fera en début de journal un point sur ce qui est prévu à Grenoble. Dans ce journal, reportage aussi sur l'influence que peuvent avoir les youtubeurs sur les plus jeunes. Ces youtubeurs ont lancé un mouvement, on est prêt, pour sensibiliser leur public à la cause environnementale. Un reportage de Rudy Pupin auprès de ce jeune public. Enfin, Grenoble accueille demain la meilleure équipe du monde, ce sera du rugby féminin. La Nouvelle-Zélande rencontre la France au Stade des Alpes. Alexandre Lepère est allé à la rencontre des joueuses de l'équipe de rugby de Grenoble.
Microcité.
J-1 donc avant la fameuse manifestation des Gilets jaunes, 1500 rassemblements sont prévus un peu partout dans le pays pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant et plus globalement sur la baisse du pouvoir d'achat. Luc Chemla, bonjour.
Bonjour.
Grenoble ne va pas échapper à cette mobilisation, qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end ?
Eh bien dès 8h du matin, préparez-vous à des perturbations. Le parking du supermarché Leclerc à Échirolles et ceux de Carrefour à Mélan et Saint-Égrève serviront de point de départ. À Grenoble, deux rassemblements à vous annoncer. Le premier à 8h à la Porte de France et le second à 10h à l'Hôtel de Ville. Tout le monde se retrouvera ensuite en fin de matinée au rond-point du Rondeau pour y installer un barrage et bloquer la route.
Et il y aura combien de personnes à ce rassemblement ?
Eh bien, la participation, c'est toute l'interrogation de ce mouvement inédit. Selon le responsable de la manifestation, dans la capitale des Alpes, 7400 personnes suivent le compte Facebook. Mais combien répondront à l'appel ? Impossible de le savoir pour l'instant. Un mot quand même sur la sécurité et les risques de débordement craints par le gouvernement. Notez que les organisateurs se sont rendus hier à l'hôtel de police de Grenoble pour faire un point avec les autorités.
Est-ce que les élus locaux vont enfiler leurs gilets jaunes ?
Le mouvement se veut apolitique, mais des élus, les Républicains, seront dans la rue demain et répondront à l'appel de leur président, Laurent Wauquiez. Même chose pour Muriel Burgaz, numéro 2 du Rassemblement National en Isère. De son côté, Benjamin Trocmé, conseiller départemental Europe Écologie Les Verts en Isère, nous a confirmé que son parti manifestera pas ce week-end. Alors beaucoup d'interrogations autour de ce mouvement, mais la plus grande inconnue reste finalement sa durée. Julien Terrier, porte-parole des Gilets jaunes à Grenoble, compte bien mobiliser la population jusqu'à que le gouvernement fasse des propositions. Les perturbations pourraient donc durer plusieurs jours.
Merci Luc, et vous évoquiez Julien Terrier. Je vous rappelle qu'il sera tout à l'heure en direct sur notre antenne pour discuter des nouvelles formes de mobilisation. Nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory, le Conseil constitutionnel a décidé ce matin de donner raison à Muriel Boll. Elle demandait l'annulation d'une garde à vue de 1984 durant laquelle elle avait accusé Bernard Laroche d'avoir assassiné le petit Grégory. Les éléments de cette garde à vue étaient essentiels à l'enquête. 34 ans après la mort de l'enfant, la justice ne dispose toujours pas de pistes probantes pour résoudre ce crime. L'actualité judiciaire du jour, c'est aussi la réquisition du parquet dans l'affaire Serena. L'avocat général de la cour d'assises de Corrèze requiert 8 ans de prison contre cette mère qui avait fait vivre sa petite fille pendant 2 ans dans le coffre de sa voiture. La décision définitive du tribunal est attendue pour la fin de journée. Enfin, Michel Fourniret risque lui la perpétuité, c'est en tout cas ce qui est requis par le parquet de la cour d'assises de Bobigny. Le tueur en série est jugé pour le meurtre de Farida Amish en 1988 dans l'affaire dite du gang des postiches. La même peine a été requise pour son ex-compagne Monique Olivier.
Le bilan des incendies en Californie continue de monter, Xavier.
63 personnes ont perdu la vie depuis la semaine dernière dans les flammes qui ravagent l'État américain. Les autorités ont aussi revu à la hausse le nombre de personnes disparues. 630 manquent à l'appel. Demain, Donald Trump se rendra sur place. Le président américain a décrété hier l'état de catastrophe majeure. Au Royaume-Uni, Theresa May tente de réaffirmer son autorité. La première ministre est aujourd'hui devant les députés britanniques pour les convaincre d'accepter le projet d'accord avec l'Union européenne concernant le Brexit, mais elle essaie aussi de sauver son propre avenir. Theresa May fait en effet face à une tempête politique depuis la présentation de cet accord. 4 ministres de son gouvernement ont démissionné hier et selon la presse britannique, une motion de censure pourrait être demandée par des députés conservateurs. Au Cambodge, les deux plus hauts dirigeants Khmer Rouge encore en vie ont été condamnés à la prison à perpétuité pour génocide. C'est la première fois que ce qualificatif est retenu par le tribunal international, qui est une juridiction composée de juristes cambodgiens et étrangers. Le régime Khmer a cessé en 1979. En 4 ans, il avait fait près de 2 millions de morts.
Des youtubeurs mettent leur notoriété au service de la planète.
Depuis hier, 64 vidéastes français participent à On est prêt, une campagne de sensibilisation de l'environnement. Chaque jour, ils lancent un défi à leurs abonnés pour les inciter à changer leurs habitudes. Ça peut être une journée sans déchets, une journée avec ou sans viande. Les principaux visés sont les plus jeunes. Rudy Pupin a pu mesurer l'impact qu'ont ces youtubeurs sur les lycéens à Échirolles.
Norman, Natou ou encore Enjoy Phoenix, ces noms de youtubeurs engagés sont sur toutes les lèvres à la sortie du lycée. Marine en terminale passe des heures à regarder des vidéos sur son téléphone.
Nous, les jeunes, on passe plus du temps sur YouTube que sur qu'en regardant la télé par exemple ou en écoutant la radio. Pour certains d'entre nous, ça représente des modèles ou des modèles idéologiques.
Des millions d'abonnés sont donc prêts à accompagner les vidéastes dans leurs défis quotidiens, comme réduire sa consommation de déchets ou d'énergie. C'est le cas d'Emma, 17 ans.
Si c'est quelque chose qui a un but derrière, je vais peut-être essayer.
Hugo, lui, envisage même de s'abonner à ces youtubeurs qui militent en faveur de l'écologie.
Tous ces petits mouvements, peu importe leur grandeur qu'ils peuvent avoir, c'est toujours un petit ou un grand pas pour essayer de réparer un peu toutes les erreurs qu'on fait via l'industrie, etc.
Mais les jeunes ne sont pas la seule cible de cette initiative. Laurie Denov, membre de l'équipe organisatrice.
L'objectif, c'est vraiment d'éveiller les consciences au plus grand nombre. C'est vraiment de créer un dialogue. C'est à la fois les jeunes, parce qu'effectivement, c'est les premiers visés par les youtubeurs qui suivent, mais aussi leurs amis, leurs familles. Donc voilà, on espère vraiment que ça va faire ricocher.
La mobilisation aura lieu pendant un mois, le temps qu'il faut selon les experts pour en créer certaines habitudes.
Un reportage de Rudy Pupin à Échirolles. Un maillot noir, une fougère pour emblème, le haka en chant rituel d'avant-match. Vous pensez certainement aux All Blacks, les rugbymen néo-zélandais, mais il s'agit là des Black Ferns, c'est l'équipe féminine de rugby. Elle sera opposée demain à l'équipe de France lors d'un test match, et ça se passe à Grenoble, au Stade des Alpes, une rencontre de haut niveau qui fascine forcément les supporters, mais aussi les joueuses comme celle du club de rugby de Grenoble. Elles évoluent en première division, Alexandre Lepère.
Le AK à Grenoble est une rencontre inoubliable pour Emeline Gros. La capitaine du FCG Amazon a abandonné son terrain cette semaine aux championnes du monde en titre. Des Néo-Zélandaises qu'elle a rencontrées à l'entraînement au stade Lady Gear.
Ça fait rêver dans le sens où on voit des icônes du rugby féminin. Ça pue le rugby, quoi. Elles sont dedans depuis qu'elles ont 4 ans, qu'elles sont toutes petites. C'est le sport emblématique de la Nouvelle-Zélande.
Entre deux ateliers de musculation, l'ailière Loua Griodos décrit le monde d'écart entre les meilleures équipes et les joueuses en noir.
Tout est propre, tout est contrôlé, tout est maîtrisé. C'est toujours dans la force, l'intensité, un mur. Ils ont des joueuses très physiques pour courir surtout. Et on voit, ça va très vite.
À 17 ans, Lou Noël est une espoir du rugby féminin. Elle a déjà connu l'équipe de France dans les catégories de jeunes. Son ambition, retrouver le maillot bleu et côtoyer bientôt les joueuses qui seront demain sur le terrain.
C'est vraiment des super, super expériences et ça m'a vraiment donné envie de continue à bosser, déjà parce que j'adore ça et en plus parce qu'il y a quand même des bons moments à la clé. On a plutôt un groupe de copines, on est toutes d'accord pour se donner rendez-vous là-bas un peu quand même.
Et d'ici là, Lou Noël et ses coéquipières du FCG Amazon seront présentes en tribune demain à 14h30 pour le coup d'envoi. Plus de 16 000 spectateurs sont attendus au Stade des Alpes.
Un reportage d'Alexandre Lepère et si vous n'avez pas vos billets, la rencontre sera diffusée demain en direct à 14h30 sur France 2. On passe au ballon rond avec les garçons. Cette fois, l'équipe de France de foot dispute ce soir son dernier match de Ligue des Nations. C'est face aux Pays-Bas, à Rotterdam. En cas de match nul ou de victoire, les champions du monde seront qualifiés pour la phase finale de cette Ligue des Nations qui aura lieu en juin prochain. Le scénario de la Route du Rhum est décidément bien imprévisible. Quelques jours après la victoire héroïque de Francis Joyon, la fameuse transatlantique nous offre aujourd'hui encore deux nouvelles histoires. D'abord celle de Lalou Roqueriol, le skipper a chaviré mercredi. Il a été récupéré aujourd'hui par un autre concurrent, il est sain et sauf. Il y a aussi cette histoire d'Alex Thompson, ce marin pourtant très confirmé, bien parti pour gagner dans sa catégorie. Mais le Gallois s'est assoupi au mauvais moment et son bateau a heurté une falaise. Il a dû utiliser son moteur pour se dégager, ce qui va lui coûter 24 heures de pénalité, alors qu'Alex Thompson était en tête de sa course. Enfin, les premiers Beaujolais nouveaux sont arrivés cette semaine. Selon ses producteurs, il s'agit d'une cuvée exceptionnelle. D'après les premiers goûteurs, on sentirait dans le vin des arômes de fruits noirs, de pivoine, voire de réglisse. Chacun se fera son avis, en toute modération bien entendu.
Merci Xavier, et ne vous assoupissez pas comme Alex Thompson. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité.
16h40 sur Microcité. Dans quelques minutes, notre dossier est consacré aux nouvelles formes de mobilisation. Mais avant cela, un peu de musique. C'était Lithium Sunset de l'increvable Sting. Et maintenant que tout le monde est détendu, place au débat. Le dossier. Et pour ce dossier consacré aux nouvelles formes de mobilisation, j'accueille Julien Penaud dans le studio. Bonjour Julien.
Bonjour.
Demain, c'est le grand jour pour les Gilets jaunes.
Exactement Léo, on en parle partout dans les médias depuis maintenant 2 semaines. Parti d'une simple pétition, le mouvement des Gilets jaunes a explosé sur les réseaux sociaux. Pour débattre de ce phénomène, de cette nouvelle forme de mobilisation, nous sommes avec peut-être le plus concerné, c'est vous Julien Tarrier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le porte-parole des Gilets jaunes à Grenoble et face à vous également un homme de terrain, Laurent Terrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de la CGT Isère. Alors bienvenue à vous deux. Je précise pour nos auditeurs que vous n'avez aucun lien de parenté. Et on commence avec vous, Julien Terrier, par une première question. Comment s'est opérée entre vous la rencontre avec les Gilets jaunes ?
Alors en fait, l'événement est parti de Paris, de routiers qui ont lancé la mobilisation, qui s'est vite répandue dans plusieurs régions de France. Moi, j'ai simplement un ami qui m'a relayé l'information. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose de créé sur Grenoble. Il m'a dit que non. Donc du coup, je lui ai dit « bouge pas 5 minutes », j'ai monté l'événement. On s'est retrouvé au bout d'une semaine avec plus de 3000 personnes sur l'événement à suivre le mouvement. Donc c'est parti de là tout simplement. Et maintenant, à J-1, on est à 7400 personnes qui suivent le mouvement sur Grenoble.
Alors, vous n'êtes affilié à aucun mouvement politique, aucun syndicat. Pourquoi s'investir maintenant ? Qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur, je dirais ?
Ça fait des années, moi, que je vois qu'il y a des choses qui ne bougent pas, des choses qui devraient changer et sur lesquelles nous n'avons pas la parole. Cet événement qui part du peuple, qui part des citoyens, c'est le moyen de mettre toutes nos forces en commun pour qu'on puisse avancer ensemble et faire bouger les choses.
D'accord. Laurent Terrier, vous êtes membre de la direction CGT Isère. Comment vous vous placez vis-à-vis des Gilets jaunes demain ?
Bah écoutez, comment ne pas être en colère face à ce qui se passe pour les salariés, les gens modestes. En fait, c'est parti sur le prix de l'essence qui augmente, alors qu'on a plein de gens qui sont effectivement obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, etc. Ils l'ont pas forcément choisi. Mais en fait, ça arrive à un moment où En fait, on a une politique fiscale, par exemple, qui permet de faire des cadeaux gigantesques aux plus riches parmi les plus riches.
Je veux dire, vraiment, par rapport au mouvement, comment vous vous placez ?
On se place, on comprend très bien cette colère qui arrive à ce moment-là, parce que c'est pas simplement le prix de l'essence, c'est l'injustice profonde qu'il y a dans cette politique, qui est une très très mauvaise répartition des richesses, en fait. Et surtout, que c'est présenté comme une mesure écologique, alors que là, on rit très très jaune, quoi, puisque dans le même temps, on démolit le chemin de fer, le service public du rail, on diminue fortement les budgets des collectivités locales. Donc par exemple ici, la Semitag voit ses subventions baisser. Donc à un moment où on est en pleine urgence écologique, et ça c'est réel, ça paraît complètement absurde, et nous dire qu'augmenter le prix de l'essence, c'est ça qui va régler le
problème. Alors, c'est possible de voir des drapeaux CGT demain, alors, aux côtés des Gilets jaunes ou pas ?
Je ne crois pas que ça soit souhaité, en fait, hein, puisque c'est un mouvement qui se définit comme apolitique, asyndical. Donc, voilà. par contre, y a quelques syndicats CGT qui ont décidé d'appeler leurs adhérents et les salariés de leur boîte à y aller. Donc, il y aura peut-être des syndiqués CGT, oui, mais je ne pense pas de drapeau.
Julien Serrier, vous, si je comprends bien, vous refusez que les syndicats viennent vous supporter.
Non, on ne va pas le dire comme ça. On refuse que les syndicats et les partis politiques viennent avec leurs casquettes, en fait, tout simplement. Par contre, en tant que citoyens, ils sont les bienvenus, ils vivent les mêmes problèmes que nous, donc il n'y a aucun problème là-dessus.
Alors, pourquoi vous n'acceptez pas qu'ils viennent avec leurs casquettes ?
Pour éviter les problèmes de récupération, et c'est une question d'image.
C'est un peu déjà fait, l'image. La récupération.
Non, elle n'a pas été faite, c'est des tentatives de récupération.
Il y en a qui ont déjà tenté, oui.
Non, tout à fait, on va les citer, il y a le Front National, il y a le parti de Nicolas Dupont-Aignan, les deux principaux qui ont fait des tentatives de récupération. Après, pour moi, c'est de la manipulation médiatique, ni plus ni moins, pour essayer de réduire l'importance du mouvement, hein, c'est tout.
Et Julien Terrier, vous avez déclaré ce matin sur France Bleu Isère, vous battre jusqu'au bout pour l'avenir de vos enfants. Est-ce que c'est pas plutôt pour le porte-monnaie que vous vous battez aujourd'hui ?
Pas du tout, parce que le mouvement il est parti, c'est vrai, pour la hausse du carburant. Maintenant, vu la mobilisation des gens, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus large. Surtout que la hausse du carburant, comme l'a dit Laurent juste avant, C'est aberrant. On nous parle de hausse du taxe de carburant pour la transition écologique, alors qu'on sait très bien, ça a été diffusé déjà, qu'il n'y a que 20% des taxes qui vont pour la transition écologique. Le reste, on ne sait pas où ça va. On nous propose des solutions vertes sur les véhicules électriques. On sait très bien que c'est pareil. Sur la longue durée, c'est pas viable non plus écologiquement. On ne sait pas retraiter les batteries. Un véhicule qui sort d'usine a déjà pollué autant qu'une voiture au diesel qui roule depuis 10 ans. Donc on va nous faire le même coup qu'avec le diesel il y a quelques années. On va nous dire, voilà, faut tous acheter de l'électrique. Et dans quelques années, on va dire, maintenant, faut changer. C'est pas bon. Donc non, on parle pas de porte-monnaie, on parle d'écologie, on parle de pouvoir d'achat. On parle d'un fossé qui se creuse entre le gouvernement et le peuple. On parle d'un ensemble de problèmes qui fait que la mobilisation prend autant d'ampleur.
Et justement, cette ampleur, donc 7000 plus de 7000 personnes qui vous suivent sur Facebook, Laurent Terrier, ces réseaux sociaux ne sont pas en train de court-circuiter, je dirais, les réseaux traditionnels auxquels, que vous représentez un peu quelque part ?
Bon, je ne pense pas du tout. Il faut vivre avec son temps. La CGT aussi, elle a des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est un outil.
Mais pourquoi avec la CGT
aujourd'hui ? Si, bien sûr que ça existe. Si vous reprenez la lutte contre la loi travail il y a 2 ans à peine, je vous rappelle qu'elle a commencé par une pétition en ligne qui a connu un succès monstre. Beaucoup plus grand d'ailleurs que la pétition actuelle sur le carburant. Hein. On était monté, je crois, à 1 500 000 signatures. Et puis, il y a eu des youtubeurs qui avaient fait tout un travail. Il y a eu plein de trucs sur les réseaux sociaux. Donc, nous aussi, on se sert de ces outils-là. Je pense que le sujet, c'est pas tellement ça, en fait. Le sujet, c'est comment on s'organise pour lutter contre les gens qui nous oppriment, c'est-à-dire le grand patronat. Parce que, Julien, tu disais tout à l'heure qu'on ne sait pas où va l'argent, mais si, on le sait. Oui. Ces taxes qui augmentent partout, elles servent à financer le CICE, elles servent à financer la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, etc., etc. Bernard Arnault, il a doublé sa fortune en un an à peine, d'accord ? Donc en fait, voilà, ce que vivent les gens au jour le jour, il y a l'essence, mais il y a les APL, il y a...
sur la loi travail.
Et surtout, vous avez posé la question de, du porte-monnaie, mais ce n'est pas vulgaire le porte-monnaie. C'est normal que les gens ils se battent pour leur pouvoir d'achat et pour leur salaire. Les salaires sont trop bas dans ce pays, beaucoup trop bas, et il faut les augmenter. Et pour ça, par contre, peut-être la différence qu'on peut avoir, c'est qu'on pense que les organisations syndicales sont essentielles pour construire un rapport de force, et notamment dans les entreprises, parce qu'on pense qu'il faut faire pression sur le patronat pour obtenir la satisfaction de nos revendications. Et j'ai des choses à dire sur l'écologie, si vous voulez.
Est-ce que cette mobilisation virtuelle sur Facebook, puisque maintenant c'est des pétitions, c'est des gens qui vous suivent sur Facebook, est-ce que vous craignez pas que sur le terrain, il n'y a personne, ou moins de personnes en tout cas que sur les réseaux?
Julien Derrier. Non, parce qu'on n'a pas qu'un avis, on n'a pas qu'un retour sur Facebook. On voit très bien dans la rue, surtout cette dernière semaine, le nombre de gilets jaunes qui fleurissent derrière les pare-brises. Donc on voit qu'il y a du concret, on voit que les gens sont fédérés, on voit que les gens se rassemblent. On a fait également des sessions de tractage, de flying dans la rue, et à 70%, les gens sont pour nous suivre au niveau du mouvement et nous soutiennent. Donc on a du concret aussi.
D'accord, on va vous faire écouter une interview. C'est le politologue et chercheur à l'Institut économique et social, c'est Jean-Marie Pernaud. Il est spécialiste du syndicalisme en France. On l'a interrogé sur le poids des syndicats en France. On l'écoute.
Depuis quelques années maintenant, le pouvoir politique s'en moque complètement. Il les consulte, il les entend, etc. Mais la politique suivie ne tient absolument aucun compte du point de vue des syndicats. Même lorsque ils peuvent être complaisants pour certains, ça leur apporte absolument rien. Il n'y a aucune logique d'échange. Et lorsqu'ils sont protestataires, ils sont pas entendus davantage. Bon, il est vrai aussi qu'ils mobilisent moins qu'avant. Donc on a un pouvoir politique qui règne en majesté et qui se soucie assez peu de ce que peuvent dire les syndicats. Cette perte d'efficacité, évidemment, joue contre eux. Et les gens se débrouillent en dehors ou cherchent à se débrouiller en dehors.
16h52 sur Radio Campus Grenoble. Microcité reçoit Julien Terrier, donc le porte-parole des Gilets jaunes à Grenoble, et Laurent Terrier, le membre de la direction départementale de la CGT Isère. En écoutant ce son, Laurent Terrier, vous réfutez le fait... Enfin, est-ce que vous ne pensez pas que au vu de la mobilisation lancée par Julien Terrier, est-ce que les syndicats sont un peu has-been, un peu ringards aujourd'hui?
Non, je ne pense pas du tout, et je ne pense pas qu'il y ait à opposer les choses de cette façon. C'est ce que je disais juste avant. Hein. Oui, bien sûr que le pouvoir politique en a rien à faire des syndicats, et de plus en plus, et Macron en particulier, mais son prédécesseur Hollande non plus, Sarko, etc. Après, ce n'est pas notre problème. En fait, notre problème à nous, c'est de créer du rapport de force. Parce qu'on ne pense pas que... on ne croit pas aux bisounours, quoi. Hein. Ce n'est pas juste des discussions entre
justement,
gens.
Justement, si demain le mouvement de Julien Terrier marche bien, est-ce que ce ne sera pas aussi une petite douleur pour la CGT? Parce que ça aura peut-être plus rassemblé, ça aura vraiment bien marché. Si la CGT l'avait fait, peut-être que ça aurait eu moins d'ampleur.
Non, mais je ne crois pas du tout qu'il faut voir les choses comme ça. Et puis, des combats, il y en a énormément dont on ne parle pas dans toutes les boîtes. Et il y a des victoires tous les jours, mais on n'est pas en compétition, quoi. C'est pas ça. Par contre, je pense que ce mouvement, s'il veut continuer, parce que si c'est juste obtenir une baisse du prix de l'essence, je pense qu'on n'aura pas réglé les problèmes de la société, d'accord ? Donc, si on veut, par exemple, prendre à bras-le-corps le problème de l'écologie, et donc développer très fortement des services publics de transport, des lignes de train partout, développer les transports en commun publics et gratuits dans les grandes villes. Vous voyez, c'est vraiment changer de système. Si on veut faire ça, on a besoin de peser notamment sur le patronat. Et pour ça, on a besoin de syndicats. C'est-à-dire un syndicat, c'est quoi ? C'est quelque chose, c'est une organisation des salariés dans l'entreprise pour essayer de créer un rapport de force. Donc voilà, je ne me place pas dans une compétition. C'est simplement que je dis peut-être aux gens qui se mobilisent sur les gilets jaunes, ne vous trompez pas. C'est-à-dire que de toute façon, pour faire changer la société, vous allez avoir besoin de vous organiser. Et le syndicat, c'est l'organisation par excellence des salariés dans les entreprises. Après, ils ont le choix.
Et justement, je m'adresse à Julien Terrier. Est-ce que, à part demain, est-ce qu'il y aura une continuité ? Est-ce qu'il y a une suite ?
Il y aura une continuité, ça ne va pas s'arrêter là. Le 17, je pense que c'est un pavé dans la mare. On va essayer de faire changer les choses, en tout cas enclencher un tournant. Ce n'est pas en une journée qu'on va faire basculer et accéder à tout ce qu'on veut. Hein. Il y a tellement de choses à changer. Déjà, le mouvement il commence le 17, il n'a pas de date de fin. On ne sait pas quand il va s'arrêter, s'il faut que ça dure une journée, deux jours, trois jours, quatre jours, tant qu'on n'aura pas amorcé un dialogue avec le gouvernement, dans tous les cas, on restera là. Par la suite, moi, j'ai déjà annoncé que j'avais le projet de créer une association pour pouvoir continuer le combat vu la mobilisation des gens. Et je pense que ce mouvement va faire en sorte qu'ils vont se mobiliser beaucoup plus.
Et est-ce que vous vous rappelez des bonnets rouges en 2013 en Bretagne contre l'écotaxe? Est-que vous vous retrouvez dans ces mouvements?
Rapidement, s'il vous plaît.
C'est des mouvements citoyens, donc on se retrouve complètement. Alors maintenant, espérons qu'ils soient à plus grande échelle et qu'on puisse faire bouger les choses pour beaucoup plus de monde.
Ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités. Donc, je rappelle, nous recevions Julien Terrier, le porte-parole des Gilets jaunes à Grenoble, et Laurent Terrier, membre de la direction départementale de la CGT Isère. On rappelle une nouvelle fois que vous n'avez aucun lien de parenté. Merci à vous, Julien, ainsi qu'à Rudy Pupin pour la préparation de ce dossier. 16h56 sur Campus Grenoble. Microcité, ça continue.
Microcité jusqu'à 17h.
Et cette année marque le 50e anniversaire de la Maison de la Culture de Grenoble. Mais on peut dire que c'est véritablement demain que la MC2 soufflera ses bougies à l'occasion d'une journée spéciale. 50 ans d'histoire, d'évolution sur lesquelles est revenue Aurélia Ballarié avec des personnages clés de l'histoire de la Maison de la Culture. C'est notre long format de la semaine.
Mesdames et messieurs, la première raison d'être de cette Maison de la Culture, c'est que tout ce qui se passe d'essentiel à Paris doit se passer en même temps à Grenoble.
C'était il y a 50 ans, en 1968, la voix d'André Malraux, ministre de la Culture, lors de l'inauguration de ce grand bâtiment blanc et noir. La Maison de la Culture voit le jour, c'est la deuxième en France, et Guy Saez en deviendra, des années plus tard, le président du conseil d'administration. Il nous ramène au début de l'histoire.
En 1945, une association s'est créée à Grenoble, et cette association a mis en place un certain nombre de projets culturels, dont une Maison de la Culture. La première Maison de la Culture, qui s'appelle ainsi, a été créée à Grenoble en 1945.
Au début des années 70, un jeune homme pousse les portes de cette Maison de la Culture pour la première fois. Il s'appelle Jean-Claude Galota et quand il assiste à un spectacle, assis dans les gradins, une vocation apparaît.
C'est la découverte de Merce Cunningham. C'était une danse justement apparemment difficile, mais ça a été pour moi un choc, une vocation. Et ça m'a donné envie de faire de la danse.
Devenu un chorégraphe reconnu, Jean-Claude Galota va parcourir le monde et les plus grandes salles de spectacle. Mais cette maison a permis à ce pur grenoblois de construire sa carrière depuis sa ville natale.
Si la Maison de la Culture n'était pas à Grenoble, je serais parti à New York, à Paris, pour aller montrer mon travail. Moi, ce qui était bien, c'est que j'étais grenoblois et qu'il y avait quelque chose de fort dans ma propre ville. J'ai tout créé dans cette maison. Donc elle a vraiment un lien très très affectif avec mon travail.
Offrir à tous un accès à la culture, c'était l'objectif ambitieux des Maisons de la Culture. À l'époque pourtant, la programmation reste assez classique, un peu fermée même pour Guy Saez.
Ce que le ministère considérait comme étant la culture, c'est-à-dire en réalité les beaux-arts, la création. C'était quand même encore à l'époque une vision, on va dire assez étroite de la culture, mais fondée sur l'excellence et la qualité.
Devenue la MC2 à partir de 2004, la Maison de la Culture garde la même ambition qu'à sa création pour son directeur actuel Jean-Paul Angot.
Depuis 50 ans, c'est toujours la même démarche. Ce que disait Malraux à l'époque, c'est-à-dire on va amener à Grenoble ce qui se passe à Paris, quelque chose d'assez vertical. Peut-être que maintenant, il y a quelque chose qui va se partager de plus horizontal, où le public va plus s'emparer de ces maisons, soit par la communication, soit par peut-être même aussi partage d'œuvres.
Une maison plus vivante, plus ouverte, voilà donc l'horizon des prochaines années. Et Jean-Paul Angot donne déjà rendez-vous.
Moi, je me fais aucun souci, dans 50 ans, on fêtera les 100 ans, c'est sûr.
Un reportage d'Aurélia Ballarié à Grenoble. 16h59 sur Campus Grenoble, avant de se quitter, un nouveau point sur l'actualité avec Xavier Ponroy.
La manifestation des Gilets jaunes, c'est demain. 1500 rassemblements sont prévus en France pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant. À Grenoble, le rendez-vous est donné à 8h, porte de France, et à 10h à la mairie. Le convoi se donnera ensuite rendez-vous au rond-point du Rondeau. Nouvel imbroglio judiciaire dans l'affaire Grégory. Le Conseil constitutionnel a décidé de donner raison ce matin à Muriel Boll, qui demandait l'annulation de sa garde à vue de 1984. Durant cette garde à vue, elle avait accusé Bernard Laroche d'avoir tué le petit Grégory, mais le fait qu'elle ait été entendue seule à 15 ans est inconstitutionnel selon le Conseil. En Californie, les incendies continuent de ravager l'État. 63 personnes sont mortes dans les flammes depuis la semaine dernière. Les autorités locales sont toujours à la recherche de plus de 600 personnes qui n'ont pas donné de nouvelles. Le froid fait son retour à Grenoble ce week-end et demain il sera accompagné de la pluie. Il fera entre 5 et 9 degrés samedi. Dimanche, le soleil revient, mais les températures resteront les mêmes.
Microcité.
tout juste 17h sur Radio Campus Grenoble. Microcité, c'est fini, mais rassurez-vous, on revient la semaine prochaine, même lieu, même heure. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission au podcast sur le site campusgrenoble.org. N'hésitez pas également à nous suivre sur Facebook et Twitter @microcité. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.